à Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manelakidza en direct de Washington. Le Monde aujourd'hui du jeudi 5 juillet 2018, édition de 17h30, temps universel. Même heure à Abidjan, Bamako et Dakar. Il est 19h30 à Bujumbura, au Burundi. D'abord les titres. Au Nigeria, dissidence au sein du parti au pouvoir. Des parlementaires se rebellent contre le président Buhari à 8 mois de la présidentielle. En Guinée équatoriale, le gouvernement annonce une amnistie totale pour les prisonniers politiques et opposants, mais l'opposition attend les actes. Le Parlement éthiopien retire 3 groupes armés de la liste des organisations considérées comme terroristes. Djibouti inaugure la future plus grande zone franche d'Afrique.
C'est une zone franche pour l'Afrique. C'est la première fois qu'en Afrique, une free zone pareille a été réalisée et tous les chefs d'État présents l'ont répété et l'ont redit.
Le Premier ministre djiboutien Abdul Kader Kamil Mohamed a retrouvé dans cette édition. Au Nigeria, des parlementaires du parti au pouvoir All Progressives Congress ont formé un groupe dissident contre le président Muhammadu Buhari à moins d'un an de la présidentielle. Le point avec Raissa Gironde.
Bouba Galadima, ancien allié de M. Buhari, a annoncé hier à Abuja la création du Reform All Progressive Congress. Ce groupe dissident est resté au sein de l'APC, ce qui permet aux élus de garder leur poste. Devant les journalistes, Bouba Galadima a ouvertement accusé le président nigérian de ne pas avoir tenu ses promesses, notamment sur la sécurité et la lutte contre la corruption. Selon lui, la présidence de Buhari est un désastre monumental et son équipe n'a aucune vision. Est inepte et incompétente. Cette annonce fait suite à des mois de querelles intestines au sein du parti au pouvoir. Les présidents des deux chambres, Bukola Saraki et Yakuba Dogara, ont des relations plus que tendues avec le président Buhari, mais n'ont pas annoncé pour l'instant leur ralliement à ce groupe dissident. Le mois dernier, l'Assemblée nationale avait déclaré ne pas hésiter à user de ses pouvoirs constitutionnels si rien n'est fait pour assurer la sécurité et mettre un terme à la montée des conflits qui ont fait plus de 2000 morts depuis le début de l'année. Muhammadu Buhari, 75 ans, avec des ennuis de santé, est candidat à sa propre succession à la présidentielle prévue en février 2019.
Raissa Gironde, restant au Nigeria, où la police a ouvert une enquête sur l'assassinat lundi soir de 7 policiers dans une embuscade dans la périphérie de la capitale fédérale. L'équipe dispose de 21 jours pour mener à bien son mandat. Il s'agit de traquer et de poursuivre les responsables des tueries pour les traduire en justice. Le Gabon a décidé de maintenir ses 444 soldats en Centrafrique et participe à la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MUNISCA. Libreville avait menacé de retirer ses soldats et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra avait souhaité leur maintien au sein de la MINUSCA. En Guinée équatoriale, l'opposition a accueilli avec prudence l'annonce du président Teodoro Obiang-Nguema qui accorde une amnistie totale aux opposants et les prisonniers politiques. Claire Morin-Gibault.
Le décret présidentiel a été bien accueilli par l'opposition, même si la prudence reste de mise. Le chef du principal parti d'opposition, Citoyen pour l'innovation, Gabriel Tsé Obiang, espère que la libération interviendra demain ou samedi, tout en souhaitant que cette amnistie ne soit pas un piège. Il attend aussi que son parti, qui a été dissous en février, soit automatiquement restauré. 21 militants de son parti, condamnés en février à plus de 30 ans de prison pour sédition, devraient être concernés par cette amnistie. Un autre parti d'opposition, la Convergence pour la démocratie sociale, juge positif la libération des prisonniers politiques. L'objectif, selon le président Obiang-Nguema, est de permettre une large participation de tous les acteurs politiques au dialogue national prévu du 16 au 21 juillet prochain.
Sierra Leone, arrestation d'un ancien vice-président et un ex-ministre pour corruption. Ces arrestations surviennent au lendemain de la remise d'un rapport accablant sur la corruption rampante sous le précédent gouvernement du Congrès de tout le peuple APC. Ce mouvement a dénoncé une chasse aux sorcières aux motivations politiques. Le Parlement éthiopien a retiré 3 groupes armés de la liste des organisations considérées comme terroristes, un geste considéré comme un nouvel acte d'apaisement du gouvernement envers l'opposition, n'est-ce pas, Abdourahmane Dia?
Les 3 groupes concernés sont Ginbot 7, le Front de Libération Oromo et le Front National de Libération de l'Ogaden. La résolution a été adoptée à l'unanimité. Les défenseurs des droits de l'homme ont longtemps accusé le gouvernement éthiopien d'utiliser l'appartenance supposée à ces 3 groupes comme prétexte pour emprisonner des journalistes ou des opposants. Mais depuis son arrivée au pouvoir en avril, le Premier ministre Ahmed Abiy a multiplié les gestes d'apaisement en libérant plusieurs opposants et en faisant de la réconciliation entre les diverses forces politiques l'une de ses priorités. Fin mai, il avait ordonné la libération d'Andargachew Shige, cofondateur de Ginbot 7. Un mois plus tard, le groupe, qui par le passé avait revendiqué plusieurs attaques meurtrières en Éthiopie, a annoncé qu'il cessait ses attaques armées. En début de semaine, une faction dissidente de l'OLF, le Front Uni de Libération Oromo, a accepté de s'engager dans une lutte pacifique selon le gouvernement.
Human Rights Watch réclame l'ouverture d'une enquête sur la détention arbitraire et sans inculpation des membres présumés du Front National de Libération de l'Ogaden, un groupe séparatiste de la région somalienne de l'Éthiopie. D'après l'ONG, les prisonniers subissent des tortures, notamment la privation de nourriture et les viols, ce qu'a démenti un responsable local. Le Mozambique est devenu une plaque tournante du trafic de l'héroïne vers l'Europe. Une étude affirmait que la drogue génère localement de très importants revenus, au point qu'elle est probablement devenue son 2e produit d'exportation après le charbon. Le trafic a augmenté jusqu'à 40 tonnes ou plus et contribue jusqu'à 100 millions de dollars par an à l'économie locale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les taxes douanières réciproques entre les États-Unis et la Chine inquiètent dans les milieux d'affaires américains. Ces mesures entrent en vigueur dès demain et portent sur des dizaines de milliards de dollars de marchandises. Le point avec Morgan Guerriec.
Les tarifs douaniers américains de 25% sur 34 milliards d'importations chinoises frapperont 818 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs. Des droits de douane chinois sur un montant équivalent d'importations américaines seront réciproquement appliqués. Ils affecteront des produits agricoles, dont le soja, très dépendant du marché chinois, le secteur automobile ou encore des produits de la mer comme la langouste. Donald Trump entend ainsi lutter contre ce qu'il qualifie d'accords commerciaux inéquitables. Mais pour le président du patronat américain, ces mesures menacent de saper les progrès économiques. Par exemple, les droits de douane sur les importations d'acier affecteront les coûts de production d'entreprises américaines qui redoutent de ne plus être compétitives face aux produits étrangers. Certains craignent déjà d'avoir à mettre la clé sous la porte, ce qui se traduirait par des pertes d'emplois pour les Américains. La Chambre de commerce américaine indique que les mesures de rétorsion des partenaires commerciaux des États-Unis ont particulièrement affecté l'Alabama, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Texas et le Wisconsin, qui ont tous voté pour Donald Trump en 2016.
Morgan Guerriec. Et le président américain Donald Trump a exhorté le Congrès à réformer d'urgence les lois insensé sur l'immigration. Il a aussi appelé à pouvoir envoyer immédiatement tous les clandestins qui entrent aux États-Unis pour éviter le problème de séparation controversée de familles de migrants. Le Parlement européen opposé aux sanctions pénales pour l'aide humanitaire aux migrants dans une résolution non législative. Les eurodéputés estiment que les personnes venant en aide à des migrants pour des raisons humanitaires ne doivent pas faire l'objet de sanctions pénales. Une législation européenne de 2002 autorise les pays de l'Union européenne d'introduire des sanctions pénales pour les personnes facilitant l'entrée, le transit et le séjour irrégulier de migrants. Et le directeur général de l'OIM a réclamé hier à Tripoli que les migrants secourus ou interceptés en Méditerranée par les gardes-côtes libyens ne soient plus détenus. Des diplomates européens ont apporté leur soutien aux habitants d'un village palestinien de Cisjordanie occupé dont Israël a annoncé la destruction. Voilà pour le journal. Maintenant, le mondial 2018 en Russie qui se poursuit demain après deux jours de repos. De belles affiches en quart de finale, France-Uruguay, puis le Brésil face à la Belgique. Le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous et bienvenue au journal du Mondial. Lueur d'espoir pour l'Uruguay à la veille de son quart de finale contre la France demain à 14h temps universel. Edinson Cavani, très incertain, s'est entraîné aujourd'hui pour la première fois depuis sa blessure contre le Portugal. Samedi dernier, El Matador a enchaîné les allers-retours en marchant puis trottinant, s'emboîter mais sans non plus courir à haute intensité. Dans un coin du terrain, pendant que ses coéquipiers s'entraînaient sur l'autre moitié de la pelouse, le temps monte petit à petit et quelques supporters français présents à l'arrivée des Bleus à leur base à Nizhny Novgorod ont donné de la voix.
J'habite Lyon et donc on est venus les deux frères et on est venus supporter l'équipe de France et j'espère que demain ils vont gagner, on y croit. Ils ont fait un très bon match, très très bon match en quart de finale, meilleur match de ma vie que j'ai vu et j'y crois avec l'attaque qu'on a, je pense qu'on va y arriver et on va voir la demi et la finale et on va la gagner cette Coupe du Monde.
Même ambiance côté uruguayen, écoutons les réactions de quelques fans.
C'est l'été, c'est l'été. Soy celeste, soy celeste, celeste soy yo.
Tough team, small country, you know, we have great defense.
C'est un match entre deux équipes. Nous avons une grande défense. Malheureusement, je ne pense pas que Cavani va jouer demain. Je veux dire, je ne sais pas. Certainement, ça va être une grosse perte pour nous, mais je pense que nous pouvons tout de même relever le défi. L'équipe est mentalement très forte. Les joueurs savent qu'il va leur manquer, mais ils vont jouer à fond, ne serait-ce que pour lui faire plaisir, même s'il n'est pas sur le terrain.
Je pense que l'équipe qui va gagner demain, la France ou l'Uruguay, a une grande chance d'être en finale. Et quel que soit l'adversaire en demi-finale, la Belgique ou le Brésil, le vainqueur du match France-Uruguay va être le champion.
En attendant cette projection en finale, le vainqueur de ce match sera opposé en demi-finale à celui de la rencontre entre le Brésil et la Belgique, toujours demain à 18h temps universel. Brésil-Belgique, c'est le coup de sifflet de Jules-Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. Les matchs Belgique-Brésil sont aussi rares que des pipis de chat et se soldent généralement par la victoire des Brésiliens. Mais pour le second quart de finale qui se dispute à Kazan, les données ont quelque peu évolué. La stratégie des Brésiliens a changé avec ses avantages et ses inconvénients. Si l'équipe défend nettement mieux et a choisi de jouer la prudence et la patience, par contre, sa créativité légendaire et sa capacité de réaction, surtout quand l'adversaire vient à marquer le premier dans un match à élimination directe, a diminué. Ce qui peut parfois être fatal à la sélection, et cela fut le cas en 2006, en 2010, respectivement contre la France de Zidane et les Pays-Bas d'Ariane Robben, qui trouvèrent la faille assez tardivement. Or, la Belgique, que le quintuple champion du monde va affronter vendredi, se trouve dans la même configuration que les Pays-Bas de 2010 en Afrique du Sud. Tout d'abord, il y a cette constellation de sable tournée vers l'offensive, mais aussi ce statut enviable d'outsider qui n'a rien à perdre et ne subit aucune pression. En face, le Brésil a perdu le ratisseur Casemiro, suspendu, certes remplacé par le solide Fernandinho, mais celui-ci commet souvent des fautes à une distance que les artificiers belges De Bruyne, Mertens ou Hazard peuvent exploiter. Sans compter ce fameux scénario catastrophe à éviter à tout prix face aux Belges, que les Diables Rouges marquent les premiers, avec les conséquences tactiques que cela impliquerait. Le Brésil qui ne cache pas son objectif de ramener immédiatement le trophée ou montrer que l'effondrement devant l'Allemagne en 2014 n'était qu'un accident, trouve là l'occasion de confirmer ses ambitions. À vendredi.
Samedi, on aura les deux autres quarts de finale entre l'Angleterre et la Suède à 14h temps universel à Samara et Russie-Croatie à Sotchi à 18h. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal du Mondial.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eric Manirakiza de retour avec vous dans Le Monde aujourd'hui pour développer les dossiers du jour. Au Tchad, les candidats au baccalauréat s'apprêtent à affronter l'examen national pour accéder aux études supérieures. Cependant, la grève générale de la plateforme syndicale revendicative lancée en mai dernier reste toujours en vigueur. Débrayage qui n'a pas permis aux élèves de finir les programmes et pour permettre à ces élèves de combler leurs lacunes. Un jeune Tchadien vient de lancer à N'Djamena une nouvelle application dénommée Mobile Back Tchad. André Kodmajingar, notre correspondant à N'Djamena, nous fait le point.
La nouvelle application Mobile Back Tchad vient renforcer les capacités des candidats des séries littéraires dans leurs recherches à travers les smartphones. Il suffit de télécharger le logiciel pour avoir accès à la méthodologie de traitement des anciens sujets au bac. Une initiative d'un jeune Tchadien pour aider les élèves des établissements d'enseignement public qui n'ont pas pu finir les programmes pour faire des grèves de la plateforme syndicale revendicative. Le promoteur du projet Dingamdoum Aristide parle de l'importance de cette application pour les candidats.
Dès que vous téléchargez l'application, vous avez accès au contenu sans avoir recours à Internet. Et en plus, l'élève a la possibilité de tester son niveau. Quand il aura fini de lire un cours, il y a des quiz qui interagissent avec l'application, c'est-à-dire il va sur le quiz, il trouve les questions, il répond et l'application lui dit s'il a réussi, s'il n'a pas réussi.
Interrogé par VOA Afrique, quelques candidats trouvent cette application intéressante.
L'application Backchat remplit plus ou moins nos besoins. Parce qu'on reçoit le programme et avec les greffes, ceux qui n'ont pas réussi à finir le programme, avec ça, ils peuvent mieux aborder quand même le bac.
La partie de français, ça m'a aidé à comprendre de mieux les œuvres développées. Mais la partie de philosophie, je n'ai pas trop compris parce que la formulation des sujets était un peu complexe.
Ils ont ajouté l'ONU et ils ont un peu approfondi le chapitre là. Puisqu'ils ont résumé le cours, c'est bon.
Une initiative appréciée par les parents d'élèves qui, selon eux, permettra à leur progéniture des établissements publics de se rattraper. D'autres, en revanche, expriment leur inquiétude sur l'orientation de ce sujet traité. C'est le cas du proviseur du collège évangélique de N'Djamena, Salé Samuel.
Avec tous les troubles que nous avons connus, beaucoup n'ont pas eu l'occasion, n'est-ce pas, de bien préparer les examens. Si quelque part on leur donne la possibilité de se débrouiller à préparer, je trouve que c'est une bonne chose. La seule chose que j'ai déploré, c'est que comment les enfants vont faire la sélection des informations pour qu'ils ne soient pas déroutés pendant l'examen.
Pour cette inquiétude, le promoteur de cette application, Dingamdoum Aristide, rassure les parents en ces termes.
Nous mettons la méthodologie de dissertation. Donc c'est pour permettre aux élèves de comprendre un peu comment faire la dissertation, le commentaire composé ou la contraction de texte. Juste question d'ouvrir un esprit à l'élève.
Le 16 juillet prochain est retenu par l'Office national des examens et concours du supérieur pour la composition du baccalauréat, alors que la plateforme syndicale revendicative n'a pas encore lever son mot d'ordre de grève. Mais certains enseignants font déjà défection et s'inscrivent sur la liste de ceux qui veulent être impliqués dans l'organisation de cet examen. Des comportements qualifiés par les autres de haute trahison qui risquent de fragiliser la lutte. André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Washington Forum se penche cette semaine sur l'implication politique des femmes en Afrique. Depuis le départ cette année des présidents Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et d'Amina Gourif Hakim de l'île Maurice, plus aucune femme n'est à la tête d'un pays africain. L'ascension des femmes africaines au pouvoir, mythe ou réalité? Les quotas imposés dans différents pays ont-ils changé la donne? Pourquoi l'écart persiste-t-il entre les hommes et les femmes? Quelles sont les difficultés et obstacles du pouvoir africain au féminin? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel.
Destination Abidjan, les États-Unis veulent booster leurs relations commerciales et économiques avec la Côte d'Ivoire, l'une des économies les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest. C'est l'enjeu principal de la visite que vient d'effectuer à Abidjan le sous-secrétaire américain au commerce international. Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
La Côte d'Ivoire, seul pays francophone au menu de la tournée africaine du sous-secrétaire américain au commerce international. Une tournée qui a conduit Gilbert Kaplan en Éthiopie, au Kenya, en Côte d'Ivoire et au Ghana. Plus qu'une simple tournée, c'est une offensive commerciale et économique que les États-Unis viennent de lancer sur ces quatre pays à forte croissance économique. Catherine Brucker, chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire.
C'est une délégation forte des entreprises américaines qui sont en train de faire un peu voyage d'études afin de donner des conseils au président des États-Unis, mais aussi aux autorités ivoiriennes dans le domaine des affaires, ce que la Côte d'Ivoire peut faire pour améliorer les conditions pour les entreprises américaines, mais aussi les opportunités pour l'investissement direct ou peut-être des partenariats.
Pour le ministre ivoirien du Commerce, l'ambition de la Côte d'Ivoire est de porter à 3 milliards de dollars le volume des échanges commerciaux avec les États-Unis d'ici 2025. Souleymane Diarra Souba.
Nous sommes bénéficiaires du MCC où nous avons eu environ 525 millions de dollars. Et la Côte d'Ivoire au niveau des échanges économiques a des niveaux d'échanges économiques d'environ 1,8 milliard de dollars avec les États-Unis. Et l'objectif est de passer à 3 milliards de dollars. Et donc nous profitons de cette plateforme-là pour inciter les opérateurs économiques américains à venir encore plus massivement en Côte d'Ivoire parce que l'environnement des affaires est favorable, parce qu'il y a des opportunités dans le secteur agro-industriel, il y a des opportunités au niveau des mines, il y a des opportunités au niveau des BTP.
Preuve de la bonne coopération entre les deux pays, l'Agence américaine pour le commerce et le développement apporte son appui à un projet ivoirien de centrale électrique à biomasse qui utilisera les cabosses de cacao. Yapi Ogou, directeur général de la Société des énergies nouvelles de Côte d'Ivoire, Soden.
On a fait le pari que cette matière-là, on va la développer au maximum pour en tirer le maximum de profit. On va avoir près d'1 million de dollars de financement mis à notre disposition pour pouvoir donc parachever ces études dans de bonnes conditions. Ça fait 550 millions de francs CFA. C'est important. Ça ne fait pas tout le projet, mais ça nous permet de finir toutes nos études pour que nous puissions faire une offre technique à l'État de Côte d'Ivoire au mois de février-avril.
Au terme d'une rencontre qu'il a eue avec le président ivoirien, le sous-secrétaire américain au commerce international, Gerbert Kaplan, a annoncé le démarrage effectif du Millennium Challenge Corporation, MCC, dès la fin du premier trimestre 2019. Georges Ibrahim Tounkara, VOA Afrique, Abidjan.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Djibouti a inauguré aujourd'hui ce qui doit devenir la plus grande zone franche sur le continent africain. Le président Ismaël Omar Guelleh a vanté les mérites d'un projet phare situé sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, entre l'océan Indien et le canal de Suez. Djibouti a inauguré l'année dernière 3 nouveaux ports et une ligne ferroviaire reliant à l'Éthiopie. Idriss Fall a joint sur place le premier ministre djiboutien Abdelkader Kamil Mohamed.
Ce qui a été inauguré aujourd'hui, c'est Djibouti International Free and Trade Zone. C'est une zone franche pour l'Afrique. C'est la première fois qu'en Afrique, une free zone pareille a été réalisée et tous les chefs d'État présents l'ont répété et l'ont redit. D'abord pour Djibouti, elle va augmenter de 11% le PIB du pays. Deuxième point, c'est que pour l'Afrique tout entière, ça sera donc une zone franche pour tous les produits qui peuvent passer par Djibouti. J'ai dit bien pour toute l'Afrique, mais la plupart des États africains qui sont à l'ouest de l'Afrique, ils auront sûrement leur zone franche, mais la partie est-africaine, tout va passer par cette zone-là. Ensuite, pour l'intégration économique de l'Afrique.
Et ça va rapporter en gros combien? Parce qu'on dit que c'est la plus grande zone franche du continent.
Oui, mais ça, là, c'est la première étape. Ça sera sur 3 étapes jusqu'en 2020-2025. Par rapport au PIB, ça va augmenter de 11%.
Et il a été construit avec quel fonds et avec l'apport de quel pays?
Sur un prêt consenti par la Chine. C'est Djibouti qui finance tout ça sur des prêts chinois.
Et aussi, ce sont les Chinois qui ont construit le chemin de fer qui part de Djibouti à l'Éthiopie. Bon. Une voie de désengorgement aussi.
Absolument. Il y a ceux qui ont construit donc le chemin de fer et ceux qui maintenant ont construit la zone franche. C'est China Merchant.
Donc Djibouti est en train de vouloir profiter vraiment de sa position stratégique.
C'est ça qui est le plus important. C'est vrai que nous n'avons pas, nous, des ressources naturelles. Par contre, Dieu nous a placés géographiquement dans une zone où Djibouti occupe une zone stratégique où il a à peu près plus de 30% du commerce international par voie maritime passe par cette zone-là, l'océan Indien. Donc, ce qui fait que nous sommes bien situés à ce niveau et nous comptons profiter de cet emplacement pour avoir le maximum des rentabilités pour notre pays et pour notre peuple.
Et donc ce n'est pas par hasard que la Chine vient construire un grand port aussi à Djibouti.
C'est pas un hasard. La Chine quand même a aussi des intérêts. Les intérêts sont chinois, sont djiboutiens aussi, hein, parce que c'est vrai que la Chine a aussi d'autres zones où ils doivent travailler, comme le Pakistan. Vous savez que ce qu'on appelle One Road, One Belt, dans l'océan Indien, passe par le Pakistan. Et après, ça vient chez nous. Nous comptons donc profiter de notre position pour qu'effectivement, on puisse développer notre pays.
Abdul Kader Kamil Mohamed, Premier ministre de Djibouti.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ce soir à minuit, les tarifs douaniers américains de 25% frapperont 818 produits chinois, soit 34 milliards d'importations de produits chinois. Pékin va aussi prendre des mesures de rétorsion, des mesures réciproques pour des produits agricoles américains, notamment le soja. Claire Morin-Gibou rejoint le président délégué du Conseil d'analyse économique auprès du ministère français des Affaires étrangères, Philippe Martin.
Ce qu'on essaye de faire, c'est d'estimer quel serait l'impact d'une guerre commerciale très très forte, hein, puisqu'on simule ce qui se passerait avec des tarifs autour de 60% entre les grands pays industrialisés. Je rappelle aujourd'hui, ils sont autour de 2 à 3% entre, par exemple, l'Union européenne et les États-Unis. Donc on essaye de comprendre ce qui se passerait, et ce qu'on voit, c'est évidemment une très forte réduction des flux de commerce, et puis le fait que tous les pays, les grands pays en particulier, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne perderaient entre 3 et 4% de leurs revenus de manière permanente. Donc c'est des effets qui sont pas négligeables du tout, et c'est des effets qui montrent que tout le monde perd évidemment à une guerre commerciale.
Pensez-vous qu'il puisse y avoir un bloc Union européenne, Chine contre les États-Unis ?
Alors pour le moment, en effet, c'est les États-Unis qui ont commencé cette guerre commerciale, dont l'objectif n'est pas totalement évident pour les Européens et pour les Chinois. D'autant plus que entre Européens et Américains, il y avait plutôt une alliance assez naturelle sur des questions qui sont soulevées à la fois en Europe et aux États-Unis sur la Chine. Puisque, par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce, à la fois les Européens et les Américains considèrent qu'il y a un problème chinois sur le fait, par exemple, des aides aux entreprises, des entreprises d'État, sur les questions de propriété intellectuelle, sur la question de la non-réciprocité dans le cas de la Chine, puisque la Chine est toujours considérée comme un pays en voie de développement dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Bref, il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels les Américains et les Européens pouvaient s'entendre, mais du fait de l'agressivité du président Trump sur cette question commerciale, cette alliance clairement n'aura pas lieu. Donc la question que vous posez, c'est est-ce qu'il y aurait une alliance plutôt entre la Chine et l'Union européenne ? Moi, je ne la vois pas tout de suite parce qu'encore une fois, il y a aussi des désaccords assez profonds entre l'Union européenne d'une part et la Chine sur justement ces questions de fonctionnement de l'Organisation mondiale du commerce. En revanche, ce qui se passe maintenant, c'est que de fait, il y a des rétorsions à la fois du côté européen et du côté chinois contre les Américains, donc avec une augmentation des tarifs. Et c'est là où il peut y avoir rétorsion contre rétorsion, rétorsion, et où du coup, il peut y avoir en effet une guerre commerciale avec des tarifs extrêmement élevés.
Président délégué du Conseil d'analyse économique auprès du ministère français des Affaires étrangères. Ainsi va le monde aujourd'hui. La journée a été peut-être très longue pour vous et sans doute que vous n'avez pas tout réalisé. Ne vous lassez pas, l'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. La mise en onde était assurée par Joselle Morissin à la console, Dan Crawford, Eric Manilakiza à la présentation. On reste en contact sur Facebook, sur votre site internet VOA Afrique pour plus d'actualités. Excellente soirée. À vous tous, à très bientôt.
Afrique. Les